Alors, psaume 31, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Je demanderai alors, l'ami Trevor, son épouse, Pauline, et aussi Diego, hein, que vous puissiez voir toutes ces personnes qui vont participer au culte ce matin. Donc, ce sont des amis qui appartiennent aux Gédéons. Vous connaissez déjà le groupe des Gédéons, dont la mission est de diffuser la parole de Dieu dans le monde entier. Ils vous en parleront. Je ne vais pas faire de message à leur place. Ils sont tous les deux ici à Genève, membres d'une église à Genève. Vous êtes de l'église de la rive droite, que nous connaissons bien, Pécola, on dit. Et vous-même de la Grâce.
L'église de la Grâce au chemin de la Mousse à Tournai.
Voilà, c'est ça. Ces deux églises évangéliques de Genève, et on manifeste aussi cette communion ici à Genève au travers de nos frères. Alors, c'est un message qui sera en deux parties. Une première partie où vous présenterez plus particulièrement les Gédéons et aussi avec un ou deux témoignages et vous-même plutôt ce qui se passe en Chine. Et c'est vraiment très, très difficile. Vous verrez, ils vous feront différents tests, voir comment on doit lire la Bible en Chine, ce qu'on a à disposition pour lire la parole de Dieu. Mais je veux déjà prier pour eux, pour les remettre. Seigneur, nous te prions d'être auprès de nos amis maintenant, pour les libérer, qu'ils puissent apporter leur témoignage et ta parole avec assurance. Merci de les bénir, merci de nous bénir chacun de nous, par l'action de ton esprit, et rends-nous aussi réceptifs à ce qui sera dit. Amen.
Frères et sœurs de l'Église évangélique de Mérin, bonjour. Je m'appelle Diego Sutter, et nous sommes venus avec Trevor et son épouse Pauline, et d'autres membres Gédéons qui sont ici présents, vous présenter le ministère des Gédéons en quelques mots, dont nous faisons partie. Je vais commencer par un témoignage. C'est celui de Jorg d'Acrona. En Romains 10, 20 et en Ésaïe 65, 1, vous pouvez lire. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. » C'était pendant la révolution communiste en Angola. Jorg d'Acrona grandit en Angola, où il fut dans la guerre dès son adolescence. Il devint un tireur d'élite à l'âge de 16 ans et il fit sa profession de tueur de rebelles, et spécialement les membres des églises qu'il considérait comme très rebelles. Un jour, il arrêta un pasteur évangélique et il le condamna à mort. Avant l'exécution, le pasteur demanda s'il pouvait prier pour lui, après quoi il lui donna un Nouveau Testament en lui soulignant le verset 20 de Romains 10. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. » Le pasteur fut exécuté, mais l'image du pasteur et le verset qu'il lui avait donné ne cessaient de le hanter. 20 années plus tard, alors qu'il avait gradué au rang de colonel dans l'armée angolaise, il rentra dans une église évangélique, et ce soir-là, le pasteur était en train de prêcher sur le même verset que le pasteur, qu'il avait exécuté tant d'années auparavant. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé par ceux qui ne me demandaient pas. Ce soir-là, tout tremblant, il tomba à genoux, confessa ses péchés et accepta le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Aujourd'hui, M. Jorg d'Acrona est général dans l'armée angolaise. Il est un membre Gédéon et il nous permet à donner des Nouveaux Testaments comme celui-là à tous les militaires de l'Angola. Je pense que tout le monde connaît le Nouveau Testament donné ou distribué par les nouveaux Gédéons, ou ceux que vous pouvez trouver dans les hôtels en particulier. Je remercie ici le Seigneur de l'occasion qu'il me donne aujourd'hui de témoigner de son amour et de son œuvre dans votre Église. Qui sommes-nous? Nous sommes ni une Église, ni une secte, mais une association internationale, interdimensionnelle, d'hommes d'affaires et de professions libérales, de responsables et de représentants qui sont des chrétiens engagés. Nous sommes le prolongement de l'action missionnaire de votre Église dans le monde. Notre seul but, c'est de gagner des âmes à Christ, en semant la parole de Dieu basée sur Ésaïe 55, 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Peut-être que vous le savez, nous distribuons plus de 1,5 million d'exemplaires par semaine, ce qui représente 2,5 Nouveaux Testaments par seconde ou 9000 par heure. Nous le faisons dans 93 langues différentes et dans 194 pays. Nous sommes à peu près 300 000 Gédéons, donc près de 200 000 hommes, un peu plus que 100 000 femmes, à travers le monde. Nous sommes pratiquement dans tous les pays du monde, sauf 18. Nous ne sommes pas encore en Afghanistan, en Algérie, en Arabie Saoudite, en Chine, en Ouzbékistan, dans les îles Comores, la Corée du Nord, Djibouti, l'Irak, l'Iran, Libye, Maldives, le Maroc, la Mauritanie, la Somalie, la Tunisie, le Turkménistan et le Yémen. Si je me suis permis de vous lire toutes ces listes, cette liste de pays où nous ne sommes pas encore représentés, c'est pour les soumettre à votre prière, comme nous prions pour qu'un jour nous puissions aussi témoigner de l'amour de notre Seigneur dans ces pays-là. Il existe parfois déjà dans certains de ces pays, comme l'Algérie, des chrétiens, que ce soit en Kabylie, ou d'autres qui ont été convertis, qui sont revenus de la France ou dans d'autres pays d'Europe. Mais aussi ces gens-là, des fois, sont persécutés parce que dans les constitutions, dans les lois de leur pays, il est interdit de donner son âme à Christ. Il faut plutôt rester avec Allah ou le Coran. Depuis la fondation de l'association des Gédéons, par 3 voyageurs de commerce américains, plus de 1,702 milliards d'exemplaires ont été distribués. Ouais, nous n'étions pas tout seuls, ceux qui sont ici présents, nous n'étions pas tout seuls à distribuer, à le faire. C'est une grande œuvre. Alors, notre seul but, c'est de donner gratuitement à tous la parole d'amour du Seigneur. Comment les Gédéons travaillent-ils? Ben, nous travaillons avec d'abord notre témoignage personnel dans la région. Je vais vous expliquer comment nous le faisons. Nous nous réunissons aussi une fois par semaine pour prier et une fois par mois pour mettre au point les actions que nous entreprenons. Et nous distribuons la parole de Dieu en votre nom dans 5 sphères précises de la région. Les hôtels, les hôpitaux qui nous acceptent encore, les écoles, les cycles d'orientation en particulier à Genève. Nous distribuons aussi aux services militaires, dans les écoles de recrues, ça se fait plutôt à Bière avec nos amis de Morges. Et nous avons commencé depuis longtemps dans les prisons pour gagner à Christ ceux qui ne le connaissent pas encore. Les besoins sont immenses. Même si nous distribuons 152 exemplaires par minute, 400 bébés naissent durant la même minute. Si l'accès à la parole de Dieu est facile chez nous, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, en tout cas pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou à des librairies ou carrément pas accès à la Bible. Mais ça existe même chez nous. Dans plusieurs pays où les distributions massives sont organisées, beaucoup attendent avec joie leur Nouveau Testament. En parlant de joie, mercredi passé, nous sommes allés distribuer des Nouveaux Testaments comme celui-là aux élèves du socle d'orientation du Renard. Alors, faudrait... Moi, j'étais admiratif, émerveillé, merci Seigneur, gloire à Dieu, de la joie de certains élèves, de jeunes, d'avoir reçu un Nouveau Testament. Pour ceux qui ont déjà des parents croyants, chrétiens ou autres, pour eux, c'est un cadeau du Seigneur. Et quand nous leur donnons, pour moi, je leur donne toujours la parole d'amour du Seigneur. Et d'autres m'ont posé des questions. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre toujours à leurs questions. Des fois oui, des fois non. Mais nous ne sommes pas admis à distribuer ces Nouveaux Testaments dans les écoles. Quand moi j'étais à l'école, j'étais en Valais, chez les chanoines à Saint-Maurice, à 15, 17 ans, je ne me rappelle plus exactement à quel âge, il y a un Gédéon qui est venu témoigner dans notre école, dans la classe, et pendant une demi-heure, il nous a expliqué qui il était, et nous a remis à chacun un Nouveau Testament. Et on a pu poser des questions. Et ce témoignage, je l'ai encore en tête. Bien sûr, moi j'étais aussi rebelle, un peu comme... Mais je n'ai pas tiré sur quelqu'un. J'étais un peu rebelle aussi pendant quelques années. Et aujourd'hui, 30 ans après, j'ai donné ma vie à Christ. Et je suis, quand les membres, quand les Gédéons sont venus dans l'église, à l'église de la grâce, j'ai pas pu m'empêcher de m'approcher de ces gens, puis de leur dire que moi j'en avais reçu un 30 ans avant. Et je suis devenu frère Gédéon. Alors, j'ai un rêve. J'ai un rêve que j'aimerais vous partager. J'aimerais qu'à Genève, nous puissions un jour, de nouveau, aller dans les écoles, comme ça s'est fait dans le passé, et qu'on puisse distribuer des Nouveaux Testaments, non pas à la sauvette sur un coin d'un trottoir, ou devant un bus quand ils le prennent, en 2 minutes, quoique peut-être que ce soit la volonté du Seigneur, mais que nous puissions témoigner devant tous les élèves de Genève, entre 12 et 15 ans, de l'amour de notre Seigneur. C'est quand même incroyable, nous sommes dans la cité de Calvin, la Réforme, et que nous ne puissions pas encore le faire. Alors c'est un rêve que j'aimerais, pour lequel j'aimerais que vous puissiez prier un jour. Maintenant, vous pouvez concrètement nous aider donc avec vos prières pour que le mystère continue à s'étendre sur toute la terre et qu'il puisse aussi aller justement là dans les pays qui pour le moment encore le refusent, comme la Chine. Vous pouvez aussi devenir membre Gédéon si vous êtes chrétien et homme d'affaires. Chrétien vous l'êtes, mais vous devez être un homme d'affaires, un cadre, avec des responsabilités, un enseignant ou avoir une profession libérale. Vous pourrez aussi nous aider en achetant des Bibles commémoratives. À la sortie, vous pouvez trouver des cartes, comme celle-ci, que vous pouvez prendre. Elles sont à votre disposition. Vous pouvez simplement, il y aura un bulletin de versement qui est mis dedans. Vous pouvez, à l'occasion d'un événement, que ce soit un heureux événement, d'un mariage ou d'un décès, nous remettre un petit peu d'argent sur le compte des Gédéons de Genève. Et avec cela, nous pourrons acheter un Nouveau Testament ou des Nouveaux Testaments. Pour votre information, simplement un Nouveau Testament que nous distribuons aux élèves coûte environ 2 francs. Sachez que tout l'argent des Gédéons vient uniquement à l'achat. Que vous donnez aux Gédéons, je veux dire, tous les dons que vous allez faire viennent uniquement pour l'achat de Bibles et de Nouveaux Testaments. Ce sont nous-mêmes qui, avec nos cotisations, assumons tous les frais administratifs et relatifs à l'association. Donc, disons pour 30 francs, et avec cela, nous en renversons une partie au siège aux États-Unis, et avec cela, ça suffit pour que toute l'organisation des Gédéons existe sur la Terre. Donc, soyez sûrs et certains que tout votre argent est utilisé uniquement pour le don des Bibles. Vous pouvez aussi nous aider donc à financer des Nouveaux Testaments avec un don. Et puis, à la sortie, vous aurez une urne dans laquelle vous pourrez mettre quelque chose si vous le souhaitez. Ou bien alors, vous pourrez prendre aussi un bulletin de versement et à votre bon cœur. Nous serons donc avec mes frères Gédéon et leur épouse. Nous serons à votre disposition après le culte pour répondre à vos questions. Et si vous rencontrez, si vous souhaitez nous rencontrer personnellement, nous serons là pour vous. Je tiens maintenant à remercier Reynold et le pasteur Roger de nous avoir chaleureusement accueillis dans votre église et nous avoir donné l'occasion de témoigner de ce ministère. Et puis je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur et de Jésus-Christ soit toujours avec vous et l'amour de notre Dieu. Amen.
Bonjour à tous. J'ai changé un peu. Voilà. J'ai grimpé sur le grand muraille de la Chine. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint? Excellent. On va vous parler au sujet de l'Église persécutée en Chine. Nous sommes allés pendant 10 ans en Chine chaque année avec Werner. Je lève Werner. Tu connais toujours notre frère Werner, qui est allé avec nous en Mongolie intérieure. Et c'est l'église clandestine. C'est pas l'église autonomique qui est soutenue par le gouvernement de la Chine, mais l'église clandestine. Je commence par lire un peu, seulement 2 versets, de la constitution de la Chine. La liberté de croyance religieuse. Les citoyens de la Chine jouissent de la liberté de croyance religieuse. Aucun organisme d'État, aucun groupement social, aucun individu ne peut contraindre un citoyen à épouser une religion ou à ne pas la pratiquer. Excellent. Site officiel de la Chine. Vous avez cette, ce petit écran sur le plateau à l'entrée. Et vous verrez la Chine, numéro 16 dans le monde. Il y a deux ans, c'était le 13. Donc bon, est-ce que la Chine est devenue mieux ou les autres plus pires? Je ne sais pas. Corée du Nord, numéro 1. Iran, où il y a un pasteur qui est condamné à la peine de la mort d'être chrétien, pour être chrétien, numéro 2. Donc, on parle d'un pays qui est pas le pire, mais quand même harcèle les citoyens. Vous voyez aussi que les distances sont immenses. D'un côté de la Chine, c'est comme de Genève à Iran, c'est de Hong Kong à l'ouest de la Chine, où nous sommes allés. C'était à Urumqi, Kashgar et enfin Tashkent, où nous avons fait le voyage cet été, pour rencontrer l'église kazakh et kirghize. C'est les minorités en Chine qui sont beaucoup surveillées et aussi protégées. Donc, je veux parler des deux côtés. Si on voit sur Joshua Project, je sais bien que vous ne pouvez pas lire tout ça, mais joshuaproject.net, c'est une organisation qui montre les peuples les moins atteints dans le monde. Et les Kyrgyzstanais, les Kazakhs et les Ouïghurs en Chine sont parmi les peuples les moins atteints. Vous voyez peut-être, adhérents chrétiens, 0,01%. Ça veut dire 1 sur 10 000. 0 pour les Kazakhs. 0 pour les Ouïghurs. Non, ce n'est pas vraiment 0, mais c'est très, très peu de ce peuple qui coûte peut-être 10, 15 millions. OK. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons apporté une Bible pour les peuples kirghiz. Et, petite question, qu'est-ce que ça veut dire? Petite aide, c'est en français. Oui, c'est écrit en français. Et c'est un verset que vous avez déjà entendu ce matin. Qui veut hasarder? Personne? C'est, oh oui? Oui, exact. Ésaïe 55, écrit en caractère russe. Écrit en caractère russe. Donc bon, en 1920, les communistes ont pris tous les pays que vous avez vus autour de la Chine, Kyrgyzstan, Turkménistan, Ouzbékistan, tout ça, et ils ont utilisé les caractères cyrilliques. Mais la Chine n'a pas utilisé les caractères cyrilliques, ils n'aimaient pas les Russes, pas du tout. Donc, nos frères et sœurs kirghiz et kazakhs et ouïghurs sont isolés de leur propre pays. Et pendant les années, on a fait la traduction de la Bible en kirghiz, mais en utilisant le caractère russe. On a fait la traduction en kazakh, en utilisant le caractère russe. Mais imaginez que vous avez eu une Bible en français, mais vous avez de la peine à le lire, parce que les kirghiz en Chine utilisent les caractères arabes depuis des générations. Ils ne connaissent pas les caractères cyrilliques. Ils n'ont pas les contacts avec les kirghiz en Kyrgyzstan, parce que les frontières sont presque fermées. Donc bon, c'est un besoin, pas un grand besoin. Mais Pauline, tu peux montrer ce qu'on a pu faire. C'est la première Bible en kirghiz, en caractère arabe. C'était un homme qui a travaillé pendant 13 ans à Bishkek, en Kyrgyzstan, pour le faire. Imaginez, il était solitaire. Vraiment. Il m'a dit, je n'ai jamais rencontré cet homme, mais seulement par email. Il m'a dit, c'est un travail solitaire, je me sens seul, je ne sais pas si quelqu'un vraiment va apprécier ce que j'ai fait. Et je l'ai encouragé par email. C'est merveilleux, l'Internet. On peut faire tout ce qu'on peut aujourd'hui pour encourager pour des hommes comme ça qui a travaillé pendant 13 ans pour le faire. Et c'est nous qui avons visité Romchi en 2010. On a appris que cette traduction est en train d'être finie et on a poussé un peu l'équipe, les Bibles étaient imprimées au Japon et maintenant voilà les papiers arrivés en Indonésie. Kuzu est lié en Indonésie. Voilà, après le coupage, version finale. Et enfin, l'emballage pour aller de l'Indonésie à Hong Kong. Excellent. Et vous pouvez imaginer comment ils ont été reçus. Voilà, première fois qu'on a vu les Bibles ici en Chine. Beaucoup d'intérêt. Et vous verrez, il y a... Voilà, c'est... À gauche, c'est ma Bible personnelle que j'utilise quand je voyage. Ça, c'est trop petit pour le Kyrgyzstan, parce qu'on peut imaginer qu'on va lire la Bible dans une yurte, avec peut-être l'aide de la lumière d'une lampe à l'huile. Donc, on ne peut pas utiliser une Bible si petite comme ça. Mais, si on essaie d'imprimer la Bible avec le papier d'un photocopieur, on arrive à deux volumes comme ça. Et ça, c'est trop grand, parce qu'on doit dissimuler les Bibles ici. Les autorités n'aiment pas qu'on porte des Bibles. Donc, on a choisi de faire une Bible comme ça, qui est la meilleure taille pour tout ce qu'il faut. Alors... Voilà ce qu'on a pu faire à Urumqi. J'ai pu enseigner dans cet endroit que vous avez vu, les personnes qui ont reçu la Bible. C'est un endroit à une heure de Urumqi, dans une région touristique, afin que les autorités ne demandent pas pourquoi il y a des groupes là, pourquoi les gens occidentaux comme nous y vont. Et j'ai pu, avec Pauline, y aller pendant une journée et on a pu enseigner au sujet de l'Esprit Saint à l'Église. Cette réunion est illégale. On n'a pas le droit de rencontrer les Chinois comme ça dans leur propre endroit. Et voilà, c'était quadrilingue. J'ai parlé en anglais. Évidemment, je ne suis pas français, francophone, pardon. Et on a traduit en kazakh et en kirghiz et après, enfin, en chinois pour notre guide chinois qui ne comprend pas le kazakh, ni le kirghiz, ni l'anglais. Donc, c'est intéressant. Et cette femme est kazakh, elle est kirghiz. Et voilà le résultat. L'eau, le feu et le vent. Des symboles de Saint-Esprit traduits en kazakh et kirghiz. Et ils ont beaucoup besoin de ces enseignements pour les responsables de l'Église. L'Église à Urumqi vit une vie différente qu'ici à Meran. Chaque samedi soir, on reçoit un SMS ou un coup de téléphone pour leur dire où sera le culte de demain, de dimanche. On ne s'annonce pas en avance où on sait. Le pasteur, on va voir les photos du pasteur un peu plus tard. Il est sur la liste noire de la police. Il a vécu 3 mois en prison en 2001 parce qu'il était le leader d'un groupe des minorités quand on a eu des émeutes des minorités. Il n'a rien fait, mais parce qu'il était le leader d'un groupe, il est mis en prison. Et on sait bien que les autorités les surveillent incroyablement. Il y a en Chine des écoles bibliques clandestines. Clandestines en guillemets. Donc, une fois, l'église à Urumqi a été en train d'envoyer quelques pasteurs à Dalian, à l'autre côté de la Chine, pour des enseignements et des réunions dans une école biblique. Au moment d'embarquement à l'aéroport d'Urumqi, quand les pasteurs sont dans le fil d'embarquement, à Dalian, la police a téléphoné leur frère et sœur là et dit, voilà, bon, nous savons bien que vos amis sont en train d'embarquer l'avion pour Dalian. Pas un problème, vous pouvez les accueillir, vous pouvez les donner, les montrer toutes les choses touristiques ici à Dalian, mais si vous faites aucune chose religieuse, nous vous arrêterons. Clic. Donc imaginons cette surveillance, tous les natels surveillés, tous les emails, presque tous les emails surveillés. Donc c'est dans cette ambiance qu'on vit en Chine. Donc voilà, ça c'est le pasteur l'année passée. On n'a pas pu le voir cette année parce que la sécurité, la situation était trop difficile. Nous étions dans un endroit touristique, évidemment, parce que c'est là où on peut se rencontrer sans un problème, sans que les autorités nous voient, j'espère. Et voilà un restaurant, ça c'est aussi intéressant. Dans ce restaurant, l'Église a eu un mariage deux ou trois mois après notre visite. Les autorités chinoises veulent que les minorités soient protégées et ne veulent pas interrompre un mariage ou une fête minoritaire. Donc, l'Église a utilisé ce mariage. Ils ont prêché l'Évangile. Et c'est rare parce que normalement, on ne peut pas prêcher l'Évangile ouvertement. À Urumqi. Ils m'ont dit, oui, peut-être 10% des invités, parce qu'ils ont invité tous leurs collègues et leurs voisins, leurs connaissances non chrétiens, peut-être 10% des invités sont sortis quand on a commencé à prêcher l'Évangile. Mais seront heureux que 90% restaient là et ils ont écouté l'Évangile. Repas en famille à Urumqi, aussi illégal, pardon. Mais bon. Voilà ce vieux homme, il était fonctionnaire à Urumqi pendant des années, et il fêtait son 80e anniversaire quand nous étions là. Et nous étions invités pour partager le repas avec sa famille. Chrétien, évidemment. Voilà son fils, Mehmet Nur. Mehmet Nur était notre conducteur avec sa voiture, très utile pour nous. Alors, Mehmet Nur aussi est chrétien. Il a évangélisé, il a essayé de parler au sujet de Jésus avec tous ses voisins, avec ses collègues. Et la police est venue chez le vieux homme et lui a dit, « Ok, vous devez parler à votre fils. » Afin qu'il ne fait pas cette évangélisation, il ne parle pas de Jésus. Et dans leur culture, si le père dit quelque chose, le fils doit obéir. Un peu différent peut-être qu'en Suisse. Ou en Angleterre aussi, je vous assure. Et le père a dit, oui, je parlerai avec mon fils. Et il l'a fait, il l'a encouragé. Il a dit qu'il parle, il n'a pas dit qu'il parle contre Jésus. Mais quand même, le fils a dû quitter l'appartement parce que les voisins ne supportent pas qu'il est là. Il a dû déménager de l'autre côté de la grande ville de Urumqi. Quand nous sommes arrivés là, il y avait eu des résidents de bâtiments qui sont. Et quand ils nous ont vus avec Mehmet Nur, le visage était comme le pierre, pas de sourire, non, ils nous ont donné des coups de méchant. Et c'est évident que nous n'étions pas les bienvenus pour, dans ce bâtiment. C'est ça que ça veut dire. Que c'est être chrétien en Chine. Oui. Et enfin, un frère. Voilà. C'est un frère qu'on a rencontré à Kashgar. Vous avez vu, c'était un peu plus loin. Son nom, c'est Akeli. Il est devenu chrétien afin de son. Parce qu'il était à l'université au centre de la Chine où il a rencontré une petite amie qui était chrétienne. Et c'est elle qui lui a mené à Christ. Merci à Dieu. Akeli a parlé à 6 personnes. Il nous a dit tout un témoignage que je ne peux pas vous donner ce matin, si on n'a pas le temps. Mais 6 personnes ont écouté Akeli qui a parlé au sujet de Jésus. 3 ont accepté et les autres sont maintenant... L'un a rejeté et 2 sont en train de considérer. C'est comme ça que l'Église croit en Chine. On ne peut pas avoir des réunions comme ce matin avec un grand culte, mais c'est un à un, comme pendant le Nouveau Testament, qu'on fait répondre l'Évangile. Et lui, il est chrétien depuis 1 an et demi. Et il est allé, après notre visite, aussi à Dalian pour faire les études dans l'école biblique clandestine. Là. Donc on doit prier pour lui. Ah, voilà. Ah oui, vous voyez le sac de poubelle, la poubelle? C'est quand il va transporter ses bibles. Parce qu'il vit à 1 heure de Kashgar par le bus et il doit les cacher avant d'arriver chez lui. La suite du visite. Voilà notre pasteur. Il a trouvé un moyen que j'espère est sécurisé. C'est un email avec des encryptions qui est apparemment assez fort. Donc il a pu nous envoyer des emails. Et je sais bien que c'est trop difficile de lire tout ce qu'il faut là, mais je vous donne un petit sommaire ce qu'il a dit. Il dit, alors, merci de Xinjiang en Chine. Le peuple kirghiz de Xinjiang dit de bénir vous et votre famille et votre église et votre pays et merci beaucoup parce qu'on a eu le livre précieux, la Bible. Il dit que un peu comme Paul et Barnabas, lui, il est allé dans des endroits différents en Xinjiang, c'est une grande province, pour enseigner les frères et sœurs. Ils ont vraiment soif de la parole de Dieu. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés. La police m'a donné beaucoup de problèmes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut imaginer que c'est un peu de harcèlement. Est-ce qu'on dit persécution ou harcèlement, ou est-ce que c'est la même chose? Ça, je vous laisse à juger vous-même. Mais évidemment, ce n'était pas aisé. Mais bon, il était très heureux et il vous remercie parce que je sais que quelques personnes dans cette église ont prié pour nous aussi quand nous étions en Chine. Et je vous remercie parce que quand vous voyez, ce n'était pas aisé de faire des rencontres illégales en toute sécurité avec toute l'église. Et maintenant, voilà. Ils ont aussi demandé qu'on fait la même chose pour les Kazakhs qui ont le Nouveau Testament, mais pas l'Ancien Testament. Et je suis heureux de vous dire qu'on a maintenant, j'espère, presque tout financé le projet pour imprimer l'Ancien Testament en Kazakh. Parce que si on n'a pas toute la Bible, imaginez, on ne peut pas lire l'Ancien Testament, on ne peut pas même enseigner utilisant l'Ancien Testament. Quand j'étais à Romchi en 2010, ils ont dit, waouh, je veux un enseignement au sujet de l'unité, mais utiliser seulement le Nouveau Testament, parce qu'on n'a pas l'Ancien. Imaginez, c'est la foi, mais et quoi en Jésus? Bon, ils sont chrétiens, mais ils manquent toujours une grande partie de l'histoire des actions de Dieu. Donc je suis heureux de vous dire que maintenant, je pense en 2011, il y aura même l'Ancien Testament kazakh. Donc bon, ça c'est un petit aperçu au sujet de l'Église persécutée en Chine. C'est évident que ce n'est pas comme en Iran. Ils ne risquent pas la peine de la mort. Quand même, ils ne peuvent pas vivre comme nous, ici, en Suisse, apparemment. Donc je vous invite à prier pour nos frères et nos sœurs. Prier qu'ils auront les Bibles, oui, mais aussi les responsables bien enseignés. Il y a cette école biblique clandestine qu'on utilise en Chine pour enseigner les responsables. L'endroit où j'étais quand j'enseignais était aussi un centre pour formation des disciples, ils ont dit. C'est pas une école biblique, mais c'est pour former les disciples, pour former. Parce que quand on n'a pas le droit d'avoir une réunion de plus de 25 personnes, ça c'est la loi en Chine. Vous imaginez, peut-être on coupe l'église de Meran en 4 ou peut-être 5 personnes. On a besoin d'un responsable pour chaque 25 personnes. On a besoin en Chine de beaucoup plus de responsables qu'ici, où on a peut-être un pasteur et une équipe pastorale. Mais bon, en Chine, on a besoin de quelqu'un qui est formé d'enseigner pour chaque 20 ou 25 personnes. Donc ça, vous pouvez prier peut-être pour qu'on puisse former les pasteurs, les responsables. Mais quand même, je peux vous encourager. L'Église est en pleine croissance, mes frères et sœurs. Pas un problème. Ils ont cette Église kazakh-kirghiz a la vision de convertir toute la province de Xinjiang en 10 ans. Je peux vous raconter. Mais c'est vraiment en pleine croissance. C'est plus grand qu'on a vu. Et Werner peut aussi de vous dire comment il a trouvé les responsables. Donc, Dieu a dit, agisse, même s'ils sont persécutés. L'Église nous a dit, ne prions contre nos autorités en Chine, priez pour les autorités en Chine. Thank you, George. Merci beaucoup.
J'aimerais vous donner un tout petit complément. J'hésitais à passer la parole à notre ami Werner, mais vous pourrez le voir à la sortie. Mais on a eu récemment un groupe d'hommes, enfin on a tous les 15 jours notre groupe d'hommes ici dans l'église, et il a eu l'occasion de nous parler de ce qu'il a vécu au centre commercial de Planète Charmille. C'est donc tout près, c'est bien chez nous, à Genève, la cité de la Réforme, en pays chrétien, entre guillemets. Et il distribuait des Nouveaux Testaments, enfin il donnait aux personnes qui désiraient prendre un Nouveau Testament. Et quelqu'un est venu et lui a pris tous ces Nouveaux Testaments pour les jeter dans une poubelle. Il est parti. Alors ça se passe chez nous en pays chrétien. Puis il a dit d'autres choses, mais enfin vous pourrez voir avec lui. Mais pour que nous soyons conscients que c'est un combat spirituel dans le monde entier, y compris dans nos pays. Il y a des choses qui commencent, qui se voient de plus en plus. Et il est important de prier pour que la parole soit malgré tout répandue.
Seigneur, nous te remercions parce que tu nous acceptes comme nous sommes, pécheurs. C'est par ta grâce et par ton amour manifesté sur la croix que nous pouvions vraiment t'approcher et avoir la vie éternelle. Nous te remercions donc, Seigneur, pour ton corps brisé, pour ton sang qui a coulé pour nous, chacun de nous. Et nous sommes reconnaissants que nous pourrions prendre ces éléments ce matin parce que c'est toi qui as souffert pour nous.
Merci Seigneur, nous prenons ces éléments dans l'assurance de ta présence dans nos vies. Et nous allons vraiment vivre proche de toi. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Amen.
Amen.